Cet épisode vous est présenté avec la somptueuse participation de Lion Kenpachi, Dark Cypher, Arnaud Talamon, Doubatib, Julien Pétrons, Paul Fougen, Julien Sévère, Jacques Schlumberger, Philippe Buech et Jean-Hugues Stockmans. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on vous propose de vous résumer et de vous expliquer toute l'actualité tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja, je suis votre animateur qui est encore là pendant l'été pour un numéro estival. Je ne sais pas si vous sentez la chaleur de l'été, les moustiques, le bruit des vagues sur la plage. Mais moi, ce que j'entends, c'est des accents un petit peu helvétiques. Comment allez-vous, messieurs ?
Bien, bien, merci. Tout va bien. Il fait très mauvais ici, mais le moral est bon.
Bon, oui. C'est l'essentiel. Je suis donc avec Mike et Benoît de Niptech qui reviennent à peu près tous les deux mois environ dans l'émission. Benoît a dit bonjour. Mike, je sens que tu veux dire bonjour aussi.
Oui, exactement, mais je voulais pas te couper la parole. Alors, je suis très content parce que je t'ai entendu mal prononcer un mot. Et c'est la première fois, déjà, parce que je t'en
D'accord,
sens
vas-y,
toujours
vas-y.
Sur ta manière de parler l'anglais, qui est mieux que la mienne, alors que j'ai vécu 8 ans là-bas. Et deux, en début d'émission, tu as mal prononcé un mot, ce qui est extrêmement rare de ta part. Voilà. Remontrance pour l'été.
Ah, ça arrive, hein, ça arrive de temps en temps quand même. Je l'avoue. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous sortez de l'enregistrement de Niptech, là, vous rentrez comme à chaque fois qu'on enregistre ensemble dans l'enregistrement. Décidément, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Je crois que j'arrive plus trop bien à parler. On va se ressaisir et on va continuer l'émission.
Est-ce que tu es assez hydraté? Est-ce que tu as assez bu d'eau?
J'ai de l'eau. Attends. Alors voilà. Attends.
Cette part de l'eau, je savais pas ça que c'était.
Ah, c'est important de s'hydrater la gorge, effectivement. On a une émission plutôt marrante à vous proposer aujourd'hui. Chers auditeurs, on a une émission avec de la très haute technologie, voire même, peut-être même de la science-fiction. Et il y a eu, c'est en l'été, les choses sont un petit peu calmes, et il y a eu un certain nombre d'histoires assez invraisemblables, ou peut-être de choses que j'invente, hein, on va voir, on va faire une sorte de petit rendez-vous tech ludique, mais toujours dans les histoires de technologie et des choses dont vous entendrez peut-être parler un petit peu plus tard dans le quotidien de la technologie. Et j'ai un certain nombre d'histoires tech dont je vais vous parler et que je vais évoquer avec vous. Et on va voir, on va jouer ensemble à essayer de voir si c'est quelque chose d'authentique, ou si c'est véritablement une histoire tech, ou si c'est quelque chose que j'ai inventé. Il y a des choses pas forcément très crédibles, on va voir. Vous me direz dans les commentaires de l'émission si vous avez eu bon ou pas après l'émission. Et mes deux camarades de Niptech vont jouer avec moi et vous allez me dire si vous y croyez ou pas. Je crois que vous suivez l'actu tech assez assidûment, donc peut-être que vous saurez lesquelles sont légitimes ou pas, mais bon, jouez le jeu, hein, ok ? On va se lancer comme ça. Et on aura bien sûr aussi dans les news et rumeurs des séries de news, mais je vous rassure, il n'y a rien d'absolument invraisemblable à discuter aujourd'hui au niveau de la tech pure. Il y a des petites choses dont on va discuter dans les news et rumeurs quand même. Alors, première technologie de pointe ou science-fiction, c'est une technologie qui permettrait alors comment vous expliquer ça ? Transmettre de l'énergie pour charger des appareils technologiques, non pas par des ondes traditionnelles électriques, non pas par l'induction comme on la connaît déjà, tous les systèmes de rechargement électrique sont des systèmes à induction, mais par, attention, des ultrasons. C'est-à-dire que l'énergie serait au niveau de l'émetteur transformé en ultrasons, elle irradierait sur toute la pièce elle vous permettrait de charger à distance, à grande distance, genre 2, 3, 4 mètres, tous vos appareils, parce que vos appareils seraient équipés d'un récepteur qui retransformerait ces ultrasons en énergie, et donc en énergie à stocker dans la batterie. Donc l'avantage que ça aurait, ça serait que vous pourriez utiliser cette technologie pour recharger vos appareils en permanence, et donc vous n'auriez pas besoin de les recharger spécifiquement à la fin de la journée, et surtout, la quantité d'énergie qu'il serait nécessaire de transmettre ne serait pas énorme, parce qu'il serait rechargé en permanence. Vous seriez à la maison, ça serait en train d'être chargé. Vous allez jusqu'au bureau, bah vous avez 2 heures à tenir, et au bureau, vous êtes encore en train d'être chargé grâce à cette technologie. Ça s'appelle U-Beam, U-Beam, ça veut dire rayon, et ça serait disponible d'ici 2 ans commercialement. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez que c'est crédible ou pas ?
Alors, moi, je me lance avant Ben, une fois n'est pas coutume. Moi, je pense que oui, c'est crédible. Pourquoi ? Parce que deux raisons. C'est, la première, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire, c'est-à-dire pouvoir charger son téléphone sans le brancher à une prise. On voit que c'est un des plus gros problèmes que tous les utilisateurs ont. Donc, ça, c'est vraiment voilà, un souci sur lequel tout le monde travaille. Donc, je me dis, bon, ça peut faire fort. Et en plus, une fois n'est pas coutume, c'est pas un scientifique, mais une scientifique qui a fait cette découverte. Donc, pour ces deux raisons, je dis oui.
D'accord. Eh ben, écoute, oui, bah, effectivement, tu l'as dit, hein, c'est effectivement une histoire réelle. Bingo, c'est vrai. Et c'est une technologie qui est beaucoup moins science-fiction qu'on aurait pu le penser, parce qu'elle a été présentée il y a déjà un certain temps au public, et elle fonctionnait, et elle a été retardée parce qu'il y a eu un problème entre la fondatrice et son cofondateur, qui était un problème légal. Aujourd'hui, ils ont résolu ce problème, et ils sont en train de s'attaquer à l'arrivée sur le marché public. Alors, bon, ils disent d'ici 2 ans, ça sera peut-être un petit peu plus long, et puis je suis pas convaincu que ça réussira commercialement, mais par contre, la technologie elle-même de transmettre de l'énergie par ultrasons, et entre parenthèses, les ultrasons, c'est pas des micro-ondes, hein, c'est pas des trucs des ondes de téléphone portable, a priori, c'est sans danger, parce que c'est la première chose que tout le monde va demander. A priori, c'est sans danger, c'est des choses qui sont qu'on n'affecte pas l'environnement.
Mais moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'il y a toujours des gens plus sensibles que d'autres. On voit sur les ondes électromagnétiques ou les ondes des téléphones, ça a un impact, on dit, environ sur 10% de la population. Donc oui, peut-être c'est sans danger, mais on sait, sait-on réellement si ça ne va pas impacter en tout cas un pourcentage de la population.
C'est vrai. Ben.
Oui, et puis ça reste des ondes. Après, c'est une histoire de fréquence. Donc, ouais, je pense que c'est ce que tu as dit me paraît intéressant aussi dans la mesure où des fois, même quand on charge avec le chargeur USB qui est moins puissant, en utilisant le téléphone, il se décharge quand même. En tout cas, le mien, peut-être qu'il est spécialement pourri, mais c'est comme ça. Donc, si c'est très très lent à charger, finalement, toi, est-ce que tu gagnes quelque chose si tu l'utilises par ailleurs?
Parce que là, c'est chargé en permanence. Oui, bien sûr, c'est vrai. Si tu l'utilises régulièrement, enfin, en permanence, en continu, c'est vrai que ça serait pas. Bon, peut-être que ça serait une technologie complémentaire. Bon, bref. Donc, transmission d'énergie par ultrasons. Peut-être que ça arrivera. Une autre histoire dont vous allez me dire que si vous y croyez ou pas, c'est la possibilité par un algorithme d'extraire du son d'une information visuelle, c'est-à-dire d'une image. Ça serait une sorte de microphone virtuel. Je vous explique. De microphone visuel, pardon. Je vous explique. Quand il y a un son qui est émis, évidemment, on en parlait tout à l'heure, ce sont des ondes qui vont donc faire vibrer certains objets. Et à vrai dire, tous les objets, plus ou moins, de manière plus ou moins importante. Et si je suis dans une pièce et que je suis en train de parler à Ben, et qu'il y a dans la pièce un paquet de chips posé sur une table, et qu'il y a de l'autre côté de la rue, Mike, qui a une caméra ultra haute définition, qui est en train de filmer le paquet de chips. Est-ce que, avec ce fameux algorithme magique-là, en analysant les vibrations du paquet de chips, il pourrait reproduire le son qu'il y a dans la pièce ? Mike, c'est Mike qui a commencé. Ben, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, bon, moi, j'ai fait pas mal d'acoustique, hein, pour travailler dans le domaine de la voix. les ondes se propagent. Donc, je pense que c'est un truc que l'armée doit déjà avoir dans sa poche depuis quelque temps. C'est trop beau pour ne pas déjà être en opération chez nos amis des services secrets.
Chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez pensé que c'était quelque chose de complètement loufoque ou pas, mais effectivement, c'est quelque chose de parfaitement réel. C'est un projet de recherche encore, en tout cas au niveau civil, peut-être que l'armée l'a déjà. Mais effectivement, ils ont mis, donc les scientifiques du MIT, les chercheurs du MIT qui ont testé ça. Donc oui, t'avais raison, Benoît, c'est effectivement vrai. Ils ont mis une caméra ultra haute définition, ultra rapide, à l'extérieur d'une pièce isolée soniquement, avec une isolation phonique parfaite. Et ils ont observé les feuilles ou un paquet de chips qui vibraient. On va voir si ça va marcher avec mon nouveau système super technologique lui aussi. Je vais essayer de vous faire écouter. Ça, c'est le son qui était en train d'être joué dans la pièce elle-même. Donc, vous voyez, c'était un truc relativement simple, mais voilà ce que ça donne avec l'analyse de l'image, hein, je vous rappelle. Ils n'entendaient pas du tout de son, ils analysent juste les feuilles de l'arbre qui bougent. Voilà. C'est effectivement, comme tu le dis, Mike, ça fait un petit peu peur.
Parce que ça fait assez Big Brother.
Eh ben, c'est ça. Le truc, c'est que tu pourrais donc, a priori, écouter le son dans une pièce juste en regardant ce qui se passe dans la pièce. Et si vous vous dites, ah oui, mais bon, là, c'est juste un petit truc avec une caméra hyper, hyper importante, hyper puissante, ça serait pas forcément possible avec une caméra normale. Genre, il faudrait du matériel spécialement designé pour ça. Et ben, ils ont essayé aussi avec une caméra normale, un DSLR, une caméra numérique classique, enregistrée en 60 images secondes, et ils ont réussi grâce aux vibrations de c'est-à-dire que l'image bougeait d'un pixel à l'autre, c'est-à-dire qu'une image sur un appareil photo numérique va être capturée ligne par ligne, n'est-ce pas ? Et d'une ligne à l'autre, il y aura que, même pas un 60e de seconde, mais encore moins que ça, beaucoup moins que ça, en fonction du nombre de lignes, c'est un 60e de seconde divisé par le nombre de lignes, et bien entre chaque ligne, il y a l'image qui se décale un tout petit peu. Et en analysant ça, et bien ils ont réussi à recevoir le certain signal. Alors, regardez ce que ça donne, là. On a le son de base qui est émis, qui est celui-ci, toujours le même. Et on a ensuite le résultat que ça donne avec une caméra normale que n'importe qui peut utiliser.
Five times higher than the frame rate of our camera.
Ils sont en train d'expliquer. Donc bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas lamentable, quoi.
Alors, c'est terminé de critiquer votre boss derrière la vitre alors qu'il a des caméras braquées sur vous en le critiquant mais en faisant un large sourire. Ceci est terminé, mesdames, messieurs.
Exactement. je crois qu'il y a une autre analyse, je vais finir avec ça, c'est à partir des écouteurs qui étaient posés sur le bureau, les écouteurs qui étaient branchés sur qui étaient branchés nulle part, qui étaient juste posés sur le bureau. Et ils utilisent Shazam pour reconnaître le morceau.
Queen.
Et voilà, c'est Under Pressure, bien sûr.
Under Pressure.
Donc voilà. Voilà, donc ça, c'est vrai aussi. Impressionnant, non ?
Est-ce que ça peut être utilisé de manière médicale ? Je ne sais pas, j'essayais de me projeter, me dire est-ce que ça pourrait être utilisé pour, je ne sais pas, les malvoyants ou des gens comme ça, pour les aider ?
Intéressant, je sais pas, c'est une c'est une bonne question. J'imagine que ce genre de technologie pourrait avoir effectivement des applications qu'on n'imagine même pas vraiment encore. Mm-hmm. Mais ça pourrait être intéressant. Troisième sujet, comment créer un réacteur pour se déplacer dans l'espace sans consommable, sans fuel, sans combustible, voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a un long débat qui a lieu à propos d'un propulseur à micro-ondes qui aurait été inventé il y a plusieurs années, par un jeune homme, un scientifique britannique qui s'appelle Roger Shoyer, qui l'appelle le EM Drive, qui, en émettant des micro-ondes dans un tube fait de manière spéciale, hein, c'est un truc très scientifique, a généré une force une force très 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 faible, mais une force tout de même. C'est-à-dire que ça défie toutes les lois de la physique, parce qu'il crée une force à partir de rien, finalement, à partir de quelque chose qui n'avait pas de mouvement. Alors, on s'en est beaucoup moqué. Il y a des Chinois qui ont recréé ce résultat. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques semaines, la NASA aurait publié un papier selon lequel, bon, il faut encore le passer en revue, mais selon lequel ils auraient réussi à reproduire le résultat aussi. Alors, est-ce que c'est moi qui invente cette histoire, ou est-ce que on peut effectivement imaginer que il y aura dans l'espace un jour des fusées, des vaisseaux spatiaux qui seront propulsés par des machins à micro-ondes sans réacteur avec combustible?
Alors moi, je vais dire non, pour faire l'avocat du diable et pour les fausses raisons, parce que la NASA D'accord. n'a rien inventé depuis très longtemps, et la dernière grande success story, c'était l'homme sur la Lune. Donc
D'accord,
ça fait très longtemps.
Okay. Voilà. Très bien, donc toi, tu n'y crois pas, Mike?
Et puis, imagine, on apprend depuis les écoles primaires que rien ne se crée, rien ne se perd, et là, tu nous dis que ça se crée. Non, ça va à l'encontre de ce que me disaient mes enseignants primaires.
D'accord.
C'est inacceptable.
Eh ben écoute, alors là, c'est un petit peu controversé, mais oui, l'histoire est effectivement vraie. Il y a le monde scientifique qui a été un petit peu tourneboulé, à vrai dire, je dis le monde scientifique, c'est un petit peu la presse généraliste, parce que si l'histoire, on en a parlé comme ça, et la NASA a effectivement publié un papier sur le sujet, il se trouve que quand on y regarde d'un petit peu plus près, les expériences menées par la NASA, qui était la première source vraiment fiable et réputée à parler de ce EM Drive, de ce réacteur sans combustible, il y en a, en fait, il y a des petites choses discutables. En ce sens que la NASA a publié ses résultats, mais dans les résultats, ils avaient un réacteur construit selon les spécifications du fameux monsieur, et un réacteur test qui n'était pas censé fonctionner, et les résultats qu'ils ont eus, en fait, sont comparables entre les deux. Alors oui, les résultats sembleraient montrer qu'il y a une très très faible force qui a été créée, mais ce résultat a aussi été retrouvé sur celui qui n'était pas censé la créer. Donc, bon, a priori, c'est pas forcément vérifiable, mais l'histoire que la NASA a effectivement créé le truc et publié le papier, c'est vrai.
Donc, alors la conclusion, c'est quoi? C'est une force parallèle qu'on ne comprend pas, qui agit sur les deux?
Eh ben écoute, c'est soit ça, soit c'est juste des conneries. Mais on ne sait pas encore. Une
Mais
autre
tu
histoire...
sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à cette histoire de particules qui allaient plus vite que la lumière, et puis en fait non. Mm-hmm. Je pense qu'on va avoir un truc dans le genre. Quoi.
C'est très possible, c'est très possible. Toujours dans l'espace, ne revenons pas tout de suite sur Terre. Dans l'espace, on aura besoin d'oxygène quand on va aller sur Mars. Et qu'est-ce qui crée de l'oxygène? Je vous pose la question.
Ah, tous les plantes.
Voilà, merci Ben, j'ai cru que t'allais planter ma démonstration là. Et eh bien, moi je pense que ce qu'il faudrait faire pour donner de l'oxygène aux spationautes qui iront sur Mars, c'est créer une plante ou une feuille artificielle qui serait en fait une sorte de petite machine qui crée une feuille qui créera de l'oxygène elle-même comme une feuille normale, une feuille naturelle, mais là ça serait une feuille artificielle. Donc simplement, hein, vous savez comment ça fonctionne. Elle prend de la lumière, de l'eau, du CO2 et elle fait de l'oxygène. Et l'avantage, c'est qu'elle va pas mourir, c'est qu'elle va, on n'a pas besoin de la soigner. Il n'y a pas de cycle, etc. Elle est juste là pour créer de l'oxygène. Alors, vous y croyez ou pas?
Moi, avec tout ce que j'entends avec les nanotechnologies, je me dirais oui, mais je serais curieux de savoir en quoi est faite cette feuille.
Eh bien, écoute, elle est faite en matière scientifique parce que oui, effectivement, elle existe bien. C'est une feuille synthétique qui est très légère, qui résiste bien sûr beaucoup plus longtemps et qui produit de l'oxygène à partir de l'eau, du CO2 et de la lumière. Donc ça pourrait effectivement, si on n'a pas encore le réacteur qui nous permettra d'aller sur Mars, on a peut-être le moyen de créer de l'oxygène pour qu'on puisse respirer, parce que le voyage va prendre beaucoup plus longtemps puisqu'on n'a pas ce réacteur super magique qui nous permettra d'aller vite.
Moi, ce que je trouve intéressant avec des inventions comme celle-ci, c'est qu'on peut aussi l'utiliser sur Terre, là où on pollue beaucoup, pour faire l'inverse de ce qu'on fait avec toute la matière, toutes les matières qu'on crée. On peut s'imaginer aussi avoir ce genre de choses pour dépolluer la Terre, je trouve.
Ah, mais c'est pas mal ton idée. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin des plantes naturelles. On pourrait avoir que ces plantes artificielles. Pas mal, Mike. Très, très bien.
Ou on pourrait traiter, je sais pas, le CO2, ou on pourrait traiter certaines matières néfastes à l'homme et à la nature pour les rendre bénéfiques ou quelque chose comme ça. Mais j'aime bien cette idée de transformation.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, on a déjà sur Terre des plantes, des vraies, tu vois. Donc, on n'a pas besoin forcément de plantes artificielles. La prochaine génération des batteries à lithium pourrait avoir une capacité doublée. Alors, comment est-ce que ça marche? Là encore, c'est un petit peu compliqué, mais il y a une histoire de cathodes qui sont plus propriifiés pendant l'utilisation et que donc l'énergie se conserve mieux, mais ça serait une technologie qui pourrait être applicable dans pas si longtemps que ça, qui pourrait doubler la durée de vie de nos batteries. Ben, est-ce que tu y crois?
Ou tout ce qui est batterie, comme je t'ai dit avant pour mon téléphone, j'ai besoin d'y croire. Là, c'est une question de survie d'y croire. Donc oui, et si tu me dis non, ça va être difficile de me récupérer.
Mais moi, j'aurais une question, c'est de me dire, j'y connais pas grand-chose en technologie des batteries, mais est-ce qu'on utilise tous des batteries à lithium sur nos téléphones portables ou pas?
Ah, aujourd'hui, oui, c'est tous des batteries, okay. C'est toutes des batteries lithium-ion. Hein. Okay. Donc c'est quelque chose de très commun aujourd'hui, c'est la technologie.
Alors oui, j'ai envie d'y croire.
En fait, c'est une modification de la manière d'utiliser les ions de la partie lithium-ion. Bref, c'est un petit peu compliqué et moi-même, je ne le comprends pas tout à fait. Mais là encore, oui, c'est vrai. Le truc que je dirais, c'est que ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit il y a une dizaine de jours et ça a l'air vraiment sérieux. Là, c'est quelque chose de super sérieux. C'est une évolution de la technologie lithium-ion qui n'a pas évolué depuis très longtemps et qui pourrait effectivement doubler la batterie. Le truc, c'est que d'une part, on en a entendu souvent ce genre d'histoire et puis d'autre part, plus on a d'énergie dans nos batteries, plus on l'utilisera pour faire d'autres trucs avec nos appareils. Donc ça ne veut pas forcément dire que les batteries dureront beaucoup plus longtemps, mais ce que ça veut dire, c'est que les appareils seront un peu plus puissants. Je pense qu'au bout d'une journée, si on peut atteindre l'équilibre d'une journée, ça suffit. Donc bref. Voilà.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de se dire, OK, il y a des nouvelles technologies qui sont développées, mais le processus d'industrialisation de ces technologies demande toujours souvent l'adoption par un grand, soit par un Microsoft. Allez, ils sont presque pas grands dans le domaine des portables, on va dire un iPhone ou quelqu'un de grand pour pouvoir développer ces batteries. Parce qu'on a beau avoir développé la technologie, après le mettre dans les mains de tout le monde, c'est pas si facile.
C'est pas faux, c'est pas faux. On a encore plusieurs petits trucs sur lesquels je vais passer un petit peu rapidement. On a d'une part, où est-ce que je l'ai mis ? Ah oui, voilà. le IBM qui construit un ordinateur. Bon, je vais aller plus rapidement parce qu'en fait, vous l'aurez compris, toutes ces histoires sont effectivement des histoires réelles. Hein, je ne suis pas dans le business de l'invention d'articles inexistants. Moi, je vous résume la vraie ActuTech et tous ces sujets sont des sujets qui ont vraiment fait les news dans ces deux dernières semaines. Donc tout ça est effectivement parfaitement sérieux et a tout à fait existé. Tout comme fameux IBM qui construirait un ordinateur, enfin une puce d'ordinateur, qui est vraiment basée sur les réseaux neuronaux. On a déjà eu de la programmation basée sur les réseaux neuronaux, mais à la base, au niveau du silicone, au niveau du matériel, c'était toujours des processeurs classiques. Là, ils ont construit un processeur qui a plusieurs entre guillemets synapses connectées à plusieurs autres neurones. Donc c'est vraiment le fonctionnement du cerveau. Et évidemment, ça sert pas pour tout. Hein, c'est pas l'intelligence artificielle qui va arriver demain, mais ça sert à des choses comme des opérations mathématiques complexes, des décryptages, des chiffrages, ce genre de choses, du chiffrement plutôt, et ce genre de choses. Donc voilà, ça arrive chez IBM. BitTorrent qui vous fournira bientôt, qui est en train de fournir une plateforme de messaging en P2P, donc décentralisée. Le PlayStation Now,
moi, j'ai une
là
question.
C'est le futur.
Oui, qu'est-ce vas-y, interrompez-moi. Ça va changer le fait que une plateforme de messagerie soit décentralisée que ce qu'on a maintenant.
C'est une très bonne question, Mike. Le fait qu'elle soit décentralisée, ça veut dire que ça passe pas par un serveur central et que donc ça ne peut pas aussi facilement être espionné. C'est quelque chose de très très important, effectivement. Même si elle n'est pas totalement anonyme, ça veut dire que vous envoyez un message à une autre personne, bien sûr ça passe par Internet, mais il n'y a pas un serveur central facile où la NSA, par exemple, ou d'autres, peuvent venir se servir. Il faut quand même qu'ils aillent chercher beaucoup plus chez vous, en fait, le message.
Ok, donc, c'est une certaine manière pour crypter les différents messages où tout le monde
C'est pas forcément crypté, hein. C'est juste que, alors, c'est la différence entre, imagine, envoyer un courrier par la poste qui aurait un service central de poste qui va tout centraliser. Donc, si tu veux savoir ce qu'a envoyé Mike, eh ben, tu vas au service central, tu regardes les enveloppes où il y a écrit envoyé par Mike, et tu lis ce qu'il y a à l'intérieur, et envoyer, je sais pas, un pigeon voyageur directement à Benoît, tu vois. De Mike à Benoît. Le pigeon voyageur, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut l'arrêter, il faut l'attraper. Mm-hmm. Tu te balades avec
Il faut l'interroger, t'allais dire. Hein.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, Mike? Et là, le pigeon, il fait rou, rou. Et voilà. Et donc, c'est difficile à comprendre. Autre chose, un truc vraiment du futur. Si vous entendez le parquet qui craque, c'est normal. C'est dans ma nouvelle maison, il y a du très beau parquet qui craque, et c'est ma femme qui marche dans l'appartement. Je ne sais pas si ça s'entendait, non?
Non.
Ah d'accord. Bon je vous raconte ma vie pour rien alors. une autre chose du futur, c'est le fameux PlayStation Now. Vous vous souvenez de cette technologie de transmission de jeux à distance, la vidéo des jeux à distance à laquelle Yann ne croyait pas du tout. Eh bien, figurez-vous que ça marche. Ça marche. C'est mis en action dans le PlayStation Now et il y aurait même un forfait qui serait à l'étude parce que les jeux sont en location aujourd'hui. C'est un petit peu cher quand même, surtout pour des courtes durées. Donc c'est un sujet, enfin une idée intéressante, et c'est intéressant depuis très longtemps l'idée de pouvoir jouer à des jeux complètement à distance. Et là, c'est ce qui était considéré comme de la science-fiction on en parlait il y a 2 ans, 3 ans avec OnLive. Là, et ben c'est en train d'être mis en application vraiment. Donc si vous vous dites que toutes ces histoires dont on parlait au début de l'émission sont un petit peu trop science-fiction, repensez à cette histoire-là de la transmission de vidéos, de jeux vidéo par Internet et qu'on pourrait jouer en direct. Et ben là, PlayStation y arrive avec le PlayStation Now. Il est en bêta ouvert aux États-Unis et ça fonctionne très bien. Microsoft qui ne veut pas laisser la parole à personne d'autre serait aussi en train de tester un casque de réalité virtuelle avec un truc qui s'appelle Fove, F-O-V-E. Le truc intéressant avec Fove, c'est que il y a un système qui regarde où vous regardez, non pas où vous tournez la tête, mais où vous regardez. C'est-à-dire que il y a un truc qui traque votre pupille, qui surveille votre pupille et qui va donc pouvoir vous afficher différentes informations ou déplacer l'image en fonction de la manière dont vous bougez vos yeux. Bon, c'est quelque chose, je sais pas très bien comment ça s'appliquerait en pratique dans les jeux ou ailleurs, mais c'est intéressant.
Petite question futuriste pour toi, toi qui es un gamer et qui connais bien ce domaine-là, tu penses que dans combien de temps les gamers joueront seulement avec des casques au lieu de jouer avec des manettes?
Franchement, c'est difficile à dire. Personnellement, moi, les casques, enfin, la version que j'ai essayée du Oculus Rift n'a pas marché pour moi. Donc, c'était très, très, très frustrant. Je pense que ça risque de développer un certain type de jeu et d'expérience. Je pense pas que ça sera adapté à tous les jeux. Donc, pour répondre à ta question, Mike, je pense pas que ça arrivera que les gamers ne jouent que avec ce type de casque de réalité virtuelle. Par contre, je pense que d'ici, allez, 2 ans, on aura une grande partie des gamers qui auront un casque de réalité virtuelle et qui l'utiliseront régulièrement. Ça me semble inévitable, tout le monde travaille dessus. Alors peut-être que ça durera pas, hein, peut-être que ça restera une mode, ça a pas l'air de se profiler comme ça, ça a l'air de se profiler de manière beaucoup plus sérieuse que ça. Et si toutes ces histoires de haute technologie et de science-fiction vous ont fait mal à la tête, eh bien, j'ai une dernière histoire, enfin, une avant-dernière histoire à peine croyable, qui est une société, une start-up. Bon, vous connaissez les start-up, hein, aux États-Unis, c'est la technologie, comme je le disais, les téléphones, les Google Glass, tout ça. Eh bien, non. Cette société qui s'appelle Eaze, E-A-Z-E, vous propose de vous mettre en relation avec des vendeurs, tenez-vous bien, de marijuana médicale. Donc, c'est une start-up qui, parce que vous savez qu'aux États-Unis, étrangement, on pense souvent que les Américains sont très conservateurs, et à vrai dire, c'est vrai, ils sont de plus en plus en train de faire légaliser la marijuana dans de nombreux États, en tout cas pour des utilisations médicales. Et là, il y a une start-up qui vous propose de vous connecter, une sorte de Uber. On parlait de l'ubérisation il y a 2 semaines avec Jérôme. Et bien là, ça serait l'ubérisation des dealers de drogue légaux.
Mais légal. J'avais vu, écouté un podcast justement sur ça où il y avait des startups qui parlaient dans le domaine de manière très sérieuse, hein, dans ce domaine-là. Mm-hmm. Et un des éléments, c'était vraiment le delivery qui pouvait, livrer à la maison, finalement avec une app très facilement. Et c'était pas seulement des souhaits, ils avaient vraiment mis ça en place, notamment dans les États où c'est légal.
Mm-hmm. Bah oui, il suffit d'avoir une ordonnance et on peut. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas se faire livrer non plus.
Non, mais même pas, je crois, au Colorado, à Washington, c'est carrément ouvert pour tous.
Légal tout court, oui. Ouais. D'accord. Bon, bah peut-être que ça arrivera aussi en France avec un peu de retard, c'est quand même terrible. Je crois que la France est le pays où il y a le plus de consommation de drogues douces et d'herbes et de ce genre de choses.
Mais de médicaments aussi, de manière générale.
Ah hein. Oui, c'est vrai, tu as raison, on est très très médicamenté. Ou en tout cas, on l'était, je ne sais plus si c'est aujourd'hui encore le cas, mais ça ne me semblerait pas étrange, parce que une chose qui est parlante, c'est que dans la plupart des autres pays, quand ton médecin te donne une ordonnance pour 12, tu as besoin de 12 pilules, ou gélules ou ce que c'est, et ben tu vas à la pharmacie spécialisée et on t'en donne 12. On va pas te donner une boîte de 30 et puis après on dit bon bah tu gardes les autres quoi. C'est une manière de voir les choses un peu différente. Et enfin donc la dernière innovation absolument incroyable que m'a envoyé Jean, dont je vous parlerai dans quelques moments à peine, qui d'ailleurs je me demande ce qu'il fait parce que son émission s'appelle Papa à quoi tu joues, et il m'envoie un lien vers c'est horrible, le Sexfit, qui est le tracker d'activité pour votre pénis. Franchement, c'est quelque chose bon, a priori, oui, pourquoi pas. C'est l'industrie du sexe ludique cherche toujours des nouvelles cibles. Eh bien voilà, si vous êtes adepte de ce genre de choses, ou peut-être pour pimenter un petit peu votre vie sexuelle de geek, vous pourriez utiliser le Sexfit qui va... alors, il y a toute une série d'histoires. Il est disponible en blanc et en rose. Et il y a même une app que vous pouvez télécharger pour suivre vos performances. Et il y a un entraîneur personnel avec un mode vibration, etc., etc.
Moi, ce que je trouverais génial, c'est d'utiliser ce SexFit et de le mettre d'avoir une interface sur son app Jawbone ou sur son app Fitbit, afin que toute sa communauté puisse voir ses expériences et ses activités. Ça serait pas mal.
Écoute, je pense qu'on pourra en parler aux développeurs de ce petit add-on. Bon, vous l'aurez compris, on n'avait pas été très sérieux pour cet épisode, enfin pour ce début d'épisode. C'était un petit peu l'épisode d'été, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Moi, les deux qui m'ont le plus impressionné, c'est d'une part cette technologie U-Beam de rechargement qui est quand même très sérieuse, et bien sûr l'algorithme qui extrait le son à partir des vidéos, oui. Qui est invraisemblable. Bon, on fait la pause avant de passer à nos news et rumeurs et donc revenir vers des sujets un petit peu plus tech traditionnels. Je vais évidemment prendre quelques minutes pour remercier les patriotes qui contribuent à l'émission et je vais commencer tout de suite avec Frédéric Zens, Olivier Angeli, Séverin Seux, Louis Filion, Cyril avec deux LE, Evie Barrel, MK90 point, j'oublie pas le point, David de Modchip 83, Jérôme M et Nicolas Sarciron. Merci à vous tous, messieurs et mesdames. Vous êtes absolument merveilleux et je ne peux pas exprimer ma reconnaissance. À combien on en est, tiens, du Patreon? On est toujours au-dessus, bien sûr, de $1,000 par épisode. C'est absolument incroyable. Wow. Oui, il y a en fait 355 Patrons qui contribuent à l'émission. Si vous pensez que l'émission a une certaine valeur pour vous, si vous pensez que l'émission vous apporte quelque chose, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et voyez si vous seriez peut-être intéressé par l'idée de contribuer à l'émission, comme déjà beaucoup de patrons, de patriotes le font. Et entre parenthèses, je vais faire un tout petit peu de teasing. J'aurai peut-être une annonce qui intéressera les gens début septembre. On verra ce que c'est. C'est un petit... On verra ce que c'est. C'est un tout petit truc. Pas important du tout. Un tout petit... Voilà. On verra.
Non, tu vas vraiment te lancer, arrêter ton travail chez Blizzard et te lancer à 100% dans le podcast?
Bon, vous devrez attendre septembre pour voir ça.
Alors, vraiment, allez, il faut donner sur Patreon. Là, hein. On veut tous voir Patrick faire que ça.
Ouais. Bon, on verra. On verra en septembre.
C'est marqué, hein. C'est marqué en plus. Il faut attendre les 5000, par contre.
5000. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Le
24
truc à 5000,
heures sur 24. Hein,
si on 24 heures 5000. Sur 24 de podcast.
Et franchement, c'est vraiment incroyable. Je trouve ça génial. Ben, qu'est-ce qu'on attend pour le faire, nous? Je sais pas.
Ah, mais qu'est-ce que vous attendez?
Il faut qu'on copie ce modèle. Il est vraiment génial. Il marche.
Ok, départ. La semaine prochaine, on aura un Patreon. Hop.
Magnifique. Ah, mais je savais pas que ça allait arriver aussi vite.
Le
c'est
plus
vrai.
Dur, ça va avoir d'avoir les $1,000 par émission. Mais on va s'y atteler.
Et ben, bon courage à vous. Évidemment, tous les détails sur niptech.com. Non, .com, oui, c'est .com. Tout à fait. Bon, et un autre petit détail, il y aura à la fin de l'émission une deuxième annonce de Jean, justement, de Papa à quoi tu joues. Il fait une émission super sympathique qui s'appelle Papa à quoi tu joues, qui est concentrée sur les moyens de jouer quand on est un petit peu occupé avec ses enfants. C'est des jeux vidéo notamment et d'autres types de jeux. Donc, il y aura l'annonce à la fin de l'émission. Je vous encourage à l'écouter. News et rumeurs, mon Macintosh a planté, surplanté et replanté. Et comme je ne suis pas du genre à abandonner ou à jeter un ordinateur, même s'il a 4 ou 5 ans, je l'ai réparé, re-réparé et re-re-réparé. Les gens qui étaient sur Twitter ont pu suivre mes pérégrinations informatiques. Je vous la fais courte, aujourd'hui il refonctionne. Et j'ai installé donc OS X Yosemite, qui est la prochaine version de OS X, qui est disponible en bêta depuis quelques semaines. Oula, pardon. Et je voulais juste donner mes premières impressions très rapidement. Et bien, figurez-vous que j'aime beaucoup l'interface. franchement, elle est pas mal du tout. J'étais pas un super fan de l'interface d'iOS 7, mais celle du nouveau OS 10, elle est pas mal du tout, très plaisante visuellement. Je sais pas si vous l'avez essayé, mais...
Non, moi j'ai vu juste des petits bouts. J'ai des gens qui se sont plaints pas mal de la transparence et qui ont de la peine à gérer ça, qui trouvent ça désagréable. Ouais.
Moi j'aime bien.
Pas toi, d'accord.
Ouais. Mais c'est quoi les différences flagrantes par rapport à un autre OS?
À l'OS précédent, c'est surtout visuel en fait. Il y a quelques oui, il y a quelques fonctionnalités différentes aussi, mais principalement c'est visuel, oui. C'est vrai. C'est la chose qui saute aux yeux immédiatement. Il y a des choses un petit peu en plus, hein. Il y a des trucs assez agréables à utiliser, mais c'est pas fondamentalement différent non plus.
Et au niveau de la puissance de son ordinateur, est-ce que si tout d'un coup il faut changer de Mac si on installe ça ou ça peut fonctionner sur un ancien?
Le mien, il a 4 ans. Il fonctionne très bien. C'est un vieux MacBook Pro qui est un Core 2 Duo, je crois. Et il fonctionne très bien. Donc non, pas besoin. Netflix envoie enfin les invitations officielles le 15 septembre. C'est dit, c'est sûr. Il y a des invitations officielles, qui sont envoyées pour les détails qui seront livrés, le lancement qui arrivera le 15 septembre. Donc en gros, je vous résume parce que je n'arrive plus à parler. Netflix sera disponible en France le 15 septembre.
Wouhou ! Voilà.
Ouais. Ah bah ça c'est beau, ouais.
Et mais bon, c'est une bonne nouvelle.
Déjà, Canal Plus s'était fait voler tout le sport par BTV, comment il s'appelle, je me souviens plus.
Bein Sport, non?
Bein Sport. Et je crois qu'ils se sont fait voler vraiment beaucoup d'abonnés. Et là, ils vont en perdre encore plus.
C'est possible. Il y a eu une grosse histoire sur la sécurité des clés USB. Et je vais vous expliquer rapidement. Ça va de le monde a explosé et on ne peut plus utiliser de clé USB à c'est un petit peu commun et tout le monde ça change pas grand chose. Ça ne va pas avoir de conséquences pratiques trop importantes. C'était déjà connu. En fait, ce qui se passe, c'est que sur tous les périphériques USB ou quasiment tous, il y a une petite mémoire un contrôleur qui est avec une mémoire dont il se trouve qu'elle est réinscriptible. Et cette mémoire peut être modifiée, comme l'ont montré les chercheurs qui ont découvert cette vulnérabilité, et donc elle peut être modifiée pour être réécrite et être utilisée pour pour créer des virus et ce genre de choses. Je simplifie beaucoup, hein, mais le problème, c'est que c'est pas la clé USB elle-même. Et je dis la clé USB, en fait, c'est tous les périphériques USB. Et donc, c'est pas la clé USB, si on parle d'une clé, qui va avoir le problème. C'est-à-dire que vous pourrez pas, votre scanner antivirus ne pourra pas voir ce qu'il y a, le contenu de la clé USB, parce que c'est un truc qui existe en amont de la clé elle-même, qui est le contrôleur de la clé, qui va dire à l'ordinateur ce qu'est la clé et ce qu'elle fait. Donc vous pourriez par exemple brancher un clavier dont le firmware aurait été modifié pour apparaître comme autre chose, ou même une souris ou une clé USB de stockage qui aurait été modifiée pour être un clavier et pour envoyer des commandes à l'ordinateur. Et c'est à peu près indétectable et c'est à peu près insoluble comme problème, parce que tout le système USB, toute l'infrastructure USB fonctionne de cette manière. Et on est encore dans cette phase où la vulnérabilité vient d'être découverte, ou plutôt publiée. Et donc, on ne sait pas très bien si c'est facilement résolvable. A priori, non. On ne sait pas très bien si c'est un gros problème. A priori, ça pourrait au moins être un problème tout court. Et la seule solution, puisque c'est indétectable, c'est de ne jamais utiliser un périphérique USB, pas juste les clés USB, hein, un périphérique USB dont vous n'êtes pas certain qu'il n'a pas été sur un ordinateur qui pourrait peut-être être infecté. En gros, ça veut dire qu'il ne faut utiliser les périphériques USB que sur votre propre machine.
Bon, en même temps, dans les banques, par exemple, que nous connaissons bien, hein, chez nous en Suisse, les ports USB n'existent pas. Oui. Jamais.
C'est sûr.
On sait déjà que pour la sécurité USB ne faisait pas bon ménage. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Les gens qui ont besoin de sécurité
Mais le problème, c'est que là, on parle pas de banque ou de choses comme ça. On parle des personnes de tous les jours. Tu sais, c'est des
oui,
virus.
Mais qui... on a déjà tout chez Google et tout ça. Tout le monde sait tout sur nous. Donc, on mine du Bitcoin dans notre dos. Ça va. C'est pas trop grave.
Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, j'en entendais parler sur This Week in Tech. Ils expliquaient la raison pourquoi il y avait eu ça. Et il semblerait que les fabricants de hardware, ils attendent jusqu'au dernier moment pour pouvoir avoir la dernière version du firmware. Donc, ils laissaient cette possibilité pour pouvoir réécraser le firmware afin de ne pas devoir redévelopper quelque chose, mais au dernier moment, parce qu'ils le changeaient souvent jusqu'au dernier moment du produit.
Tout à fait, oui.
Et je trouvais ça intéressant.
Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, il n'y a pas de raison d'avoir cette partie de l'appareil qui soit réinscriptible. Oui. A priori, c'est le contrôleur. Une fois qu'il fonctionne, il fonctionne. Sauf qu'ils produisent ces puces en quantité industrielle et qu'ils ne veulent pas, comme tu l'expliquais, avoir à refaire tout un batch de production entier s'il y a eu un bug qui a été trouvé à un moment. Ouais. Donc, ouais, tout à fait. Google aurait envoyé des informations privées à propos d'un homme qui envoyait des emails à caractère pédopornographique et ils auraient envoyé ces informations aux autorités. Alors, bien sûr, la pédophilie, c'est un grand problème et on ne va pas s'émouvoir du fait que cet homme-là ait été attrapé. Par contre, la question que ça pose, c'est est-ce que Google est en train d'observer nos emails et de les scanner, de les regarder pour voir ce qui se passe dedans? Bon, ça, bien sûr, on sait que oui, mais est-ce que ça n'est pas que des robots qui regardent ces informations pour nous servir de la pub et pour l'utiliser de cette manière? Là, c'est quand même, il y a un moyen avec lequel l'image a été identifiée comme image pornographique, pédopornographique, et il y a un humain qui a agi sur la chose. Alors, on s'est beaucoup posé la question pendant quelques jours, et finalement, on a eu la réponse, et il se trouve que Microsoft et d'autres font la même chose, c'est-à-dire que effectivement, les contenus sont scannés, puisqu'ils sont déjà scannés par ailleurs, hein, on le sait bien sûr, ne serait-ce que, on dit souvent « Ah oui, mais j'ai pas envie que Google scanne mon email ». Le truc, c'est que ne serait-ce que pour se débarrasser du spam, il faut que Google scanne votre email, donc ça n'a pas que des conséquences négatives. Bref, il scanne les emails et il y a un système qui s'appelle PhotoDNA, PhotoADN en fait, qui produit un code, je schématise, mais qui produit un code qui est unique pour chaque image et qui le compare ensuite à une base de données d'enfants qui ont disparu et une base de données d'images justement pédopornographiques. Et s'il y a une correspondance entre ces codes, cet ADN de photo, ce H, il y a un signal d'alarme qui est donné. Et à ce moment-là, un humain va aller regarder le contenu de l'email et voir s'il s'agit effectivement de quelque chose qu'il faut signaler aux autorités. Comme ouais. toujours, débat compliqué parce que effectivement, la pédopornographie est quelque chose qui est. Je pense que c'est évidemment le truc qui fait l'unanimité sur Internet quand on dit il faut le combattre. Oui, et on sera peut-être prêt à aller plus loin et à se mettre un petit peu moins en confort avec notre sécurité et notre vie privée pour combattre ce genre de choses. Et de l'autre côté, c'est vrai que souvent on a ce spectre de la pédophilie et du terrorisme qui sont agités par les autorités pour essayer d'obtenir plus de contrôle dans nos informations privées, plus d'accès à nos informations privées. Je pense que là, dans ce cas précis, on est dans une configuration où les choses sont quand même compréhensibles et acceptables et le fonctionnement, ils sont allés aux autorités directement, il y a un système qui est automatisé et qui est raisonnable. Je pense que là, on n'y trouvera pas grand-chose à redire.
Vas-y, juste pour dire, à l'époque où j'étais chez Google, on avait des guidelines très très précises sur que faire quand on tombait sur du contenu de ce style. Et faut voir qu'il y a des équipes entières qui passent en revue, pas seulement ce qu'il y a chez les utilisateurs, mais sur Internet en général, pour éviter les liens du moteur de recherche. Donc, c'est vraiment un gros business chez Google, tout ça. Et c'est extrêmement dur pour ces équipes aussi. Donc, c'est un peu Moi, je suis tout à fait favorable à ça. Et c'est vrai que quand on travaille dans ce genre de boîte, il y a toute la face cachée qu'on ne peut pas voir du monde qui est là quand même. Quoi.
Bien sûr. Mais la question, c'est est-ce qu'il faudrait regarder même ces choses-là, et ce qui est privé, non ?
Au bout d'un moment, il y a quand même un intérêt public. Et puis la barre est tellement loin dans le fait qu'il y a un intérêt public que pour moi, ça pose aucun problème.
Je me fais l'horrible avocat du diable, mais du coup, quand tu regardes ce genre de choses, est-ce que tu n'as pas le danger que les petits analystes qui sont dans la salle d'analyse, justement, se mettent à regarder plus que ce qu'ils sont censés regarder?
Il y avait eu cette espèce de scandale il y a deux, trois ans, d'un ingénieur de Google qui avait pris contact avec un adolescent pour des raisons qui n'étaient pas claires, pas forcément de l'ordre de pédophilie, mais enfin, à un moment donné, il y a des gens qui ont accès à nos informations, ça de toute manière. Maintenant, ils cryptent de plus en plus, etc., mais bon.
C'est ça que je me disais aussi. Si on veut vraiment cette privacy totale et d'avoir la vie privée, il y a aussi du cryptage, PGP et autres qui existent et qui permet ça. Je pense qu'il y a des technologies qui sont à même d'être utilisées. Je pense pas que Google peut scanner nos emails si on les crypte. Je me dis, on a un service déjà gratuit qui s'appelle Gmail qu'on peut utiliser. Bien sûr, ils nous fournissent de la pub, bien sûr si, bien sûr ça. Après, voilà, si on veut de la vie privée, il y a des outils qui existent qu'on peut utiliser et qu'on n'a qu'à utiliser.
Est-ce qu'on a le droit de dire crypté ou faut dire chiffré ?
Non, il faut dire chiffré.
Il faut dire chiffré, hein.
Aïe.
Ah, moi, je me fais engueuler à chaque fois. Donc,
il ne faut pas dire digital, il faut dire numérique, non, il ne faut numérique, pas dire crypté, ouais. Il faut dire chiffré. Voilà, on est bon.
C'est bon, on a tout fait. Est-ce que Free va racheter un des opérateurs de téléphonie mobile et d'Internet aux États-Unis qui s'appelle T-Mobile, qui est en vente, et un autre qui s'appelle Sprint, était en concurrence pour racheter T-Mobile. Est-ce que Free serait en train d'envahir les États-Unis? Visiblement non, parce que T-Mobile a dit en fait cette offre qui était pourtant sérieuse, qui était une offre de 15 milliards de dollars, n'était pas assez élevée. Entre-temps, les négociations avec Sprint se sont cassées la figure. Donc il y a toujours peut-être une possibilité pour que Xavier Niel revienne à la charge et veuille racheter T-Mobile. Ça serait effectivement une... j'ai dit Internet, c'est mobile, bien sûr, comme son nom l'indique, T-Mobile. Ça serait quelque chose de très intéressant de voir Free se lancer à la conquête du marché américain, parce que il est très comparable à ce qu'était le marché français avant son arrivée sur le marché français. Il y a un certain nombre de gros acteurs, un marché qui est un petit peu sclérosé, et c'est le type de marché absolument mûr pour qu'un petit trublion vienne perturber les choses et faire avancer les choses. Donc,
Moi, je trouve que c'est une super chose. Je peux que l'inviter à racheter T-Mobile pour 15 milliards. Je pense aussi qu'ils ont besoin peut-être d'une visibilité, d'une vision européenne des choses, où on voit qu'en Europe, pas seulement grâce aux entreprises, mais grâce à tout ce qu'on a fait, ça marche mieux qu'aux États-Unis. Donc, je pense que ça serait super de voir une entreprise française aussi aller aux États-Unis et pas seulement l'inverse.
Bon, après, ce qu'il y a de bizarre, c'est quand normalement, tu rachètes, toi, t'es Google, tu rachètes une boîte qui est plus petite que toi. Mais là, si j'ai bien compris, Iliad est plus petit que T-Mobile. Donc, ça devient des trucs un petit peu bizarres en termes de qui rachète quoi, comment. Moi, je pense aussi
c'est d'ailleurs un peu pour ça que ça n'a pas fonctionné, mais ça veut pas dire T-Mobile va très très mal, Donc,
ils
sont sur la pente remontante, mais oui, c'est sûr.
Il faut pouvoir mettre pas un milliard, mais 5-10 milliards, et bon, Iliad, je suis pas certain qu'ils aient les moyens.
T-Mobile appartient toujours à Deutsche Telekom?
Tout à fait, oui.
Ok. Donc, ils n'ont pas besoin de vendre Deutsche Telekom. Ils ont bien assez d'argent. Donc,
c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Tu sais, c'est peut-être un... Enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles ils pourraient vouloir vendre. Twitch, vous connaissez Twitch. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, il faut commencer à apprendre à le connaître, parce que c'est un service extrêmement populaire chez les jeunes. C'est un service qui vous permet de regarder des gens jouer à des jeux vidéo ou des compétitions de jeux vidéo en direct. Eh bien, ils ont fait un immense changement qui a fait beaucoup de bruit en autorisant, ou plutôt en implémentant, un système de détectage automatique de musique, parce que les utilisateurs de Twitch, pendant qu'ils jouaient à des jeux, souvent mettaient de la musique dans le fond et laissaient cette musique pendant qu'ils jouaient en direct, et ensuite les vidéos étaient archivées. Eh bien, Twitch a mis un système qui est un petit peu comme celui de YouTube, qui détecte la musique et qui supprime le son sur des blocs de 30 minutes quand il détecte un morceau qui n'est pas autorisé, qui est copyrighté. Évidemment, il y a eu tout plein de problèmes avec ça. Ils ont fait plein d'autres choses aussi. Ils avaient, en fait, avant, ils archivaient l'ensemble de toutes les vidéos qui avaient été streamées. Et les gens streamaient parfois 4, 5, 8, 9 heures par jour. Et tout ça était archivé automatiquement. Maintenant, c'est plus le cas. Ce qui Twitch avait été pressenti visiblement pour un rachat par YouTube. Donc certains ont dit ah mais c'est pas logique, s'il se faisait racheter par YouTube, YouTube n'a pas besoin de libérer de l'espace sur les disques. Donc pourquoi est-ce qu'ils supprimeraient les archives ? En même temps, YouTube, oui, ils ont déjà un système similaire pour voir quelle musique copyrightée est utilisée. D'un autre côté, certains ont dit ah mais oui, ce deal qui était dont on entendait parler depuis longtemps, eh bien si finalement il ne se fait pas, c'était un deal pour un milliard, hein, vous vous souvenez, si finalement il ne se fait pas, Twitch a besoin de mettre de l'ordre dans leur maison, de réduire les coûts, de se faire un petit peu mieux voir au niveau légal, etc. etc. Bon, ils ont fait beaucoup d'erreurs dans l'implémentation, ils ont dit qu'ils allaient corriger ces erreurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est le nettoyage avant d'être acheté ou c'est le nettoyage parce qu'ils ne se font pas racheter ? On regarde dans notre boule de cristal, hein, là, on n'en sait rien.
Moi, je vous fais un grand parallèle de Twitch avec YouTube avant qu'ils se fassent racheter. Ils avaient aussi des gros problèmes de copyright et ils devaient les régler. Et le fait de s'être vendu à Google a aussi permis à YouTube de faire face à ces problématiques-là avec les majors. Et je pense que Twitch est un peu au même niveau. Bien que je ne connais pas cette boîte parce que je ne suis pas un gamer et j'ai pas moins de 16 ans et que je ne passe pas ma vie devant un ordinateur à regarder des trucs de Minecraft. Je sais même pas ce que c'est Minecraft. Je trouve que c'est intéressant et c'est exactement la même chose que YouTube a vécu.
C'est pas faux, ouais.
Bon, et puis après, c'est aussi l'ordre logique des choses. Quand tu es tout petit, c'est normal qu'on te laisse un petit peu de liberté. Quand tu grandis, tu commences à prendre tes responsabilités. C'est vrai pour les services Internet comme pour les personnes. De toutes les façons, voilà, ils ne peuvent pas dire « ouais, parce qu'on est cool et sympa, on peut faire ce qu'on veut ». Donc, moi, je trouve très bien. Ça met aussi tout le monde sur un pied d'égalité. Hein. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent sur YouTube hein, pour ça. Même s'il y a des petites musiques de fond qui passent, des fois, les vidéos se font bloquer, ils sont hyper agressifs.
Ah ben, il y a plein de problèmes en plus, parce que parfois, il y a des gens qui disent qu'ils sont propriétaires d'une vidéo, d'une bande-son dont ils ne sont pas propriétaires. Pareil pour les vidéos, enfin, c'est un foutoir incroyable. Et entre parenthèses, Twitch ne va pas activer, même si c'était possible, ils ont dit, même si c'était possible de l'activer pour le direct, ils ne vont pas activer ce système de reconnaissance audio pour le direct. C'est uniquement pour les vidéos archivées. Donc, c'est quand même intéressant à voir aussi. Ils se conforment à la loi, entre guillemets, jusqu'à un certain point. La loi qui n'est pas très claire non plus. Pardon, Mike, j'arrête pas de t'interrompre.
Non, il n'y a pas de souci. Toi qui es dans le gaming, est-ce que qui a fait que Twitch ait autant de succès par rapport à une plateforme comme YouTube ? Quelle a été leur force que YouTube n'avait pas ?
C'est une très bonne question. D'une part, un système de live, de diffusion en direct qui est très très bien, même pas très bien développé, mais très simple. Une gestion de la communauté qui est très efficace avec cette fonctionnalité toute bête qu'il y a une chatroom attachée à la vidéo directement. Donc les gens peuvent discuter entre eux et la spécialisation sur le jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est devenu une destination très très nette et très très claire quand on veut regarder des jeux vidéo. Alors parfois c'est les tout derniers jeux vidéo qui viennent de sortir, on veut voir quelqu'un qui y joue pour se faire une idée. Parfois ce sont des tournois importants qu'on va aller voir en direct comme on regarderait un match de foot. Parfois ce sont simplement des gens qui jouent à un jeu spécifique ou à différents jeux, mais c'est des gens qu'on aime bien, donc c'est leur personnalité qu'on aime bien, donc on va aller les suivre. C'est ce mélange entre spécialisation, vraiment ici on fait des jeux vidéo, et communauté et simplicité d'utilisation. Finalement, si on y pense, aujourd'hui, il y avait, il y a 4-5 ans, différentes sociétés qui essayaient de fournir des services de streaming en direct, plus ou moins gratuitement. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Même la société mère de Twitch, qui était Justin.tv, qui avait commencé avec un type qui se filmait 24 heures sur 24 et puis qui s'est transformé en plateforme de streaming dont la société sœur, donc ou fille, est devenue Twitch, eh bien, cette société qui s'appelait Justin.tv existait et elle permettait le streaming, mais elle n'a pas eu vraiment le succès escompté. Et Twitch, qui fait finalement à peu près la même chose, mais très spécialisé sur le gaming, qui surfe sur la vague du gaming, a bien réussi. Et d'ailleurs, sur YouTube, beaucoup des plus grosses chaînes sont des chaînes de jeux vidéo. Donc, il y a vraiment cette culture des gamers et du jeu vidéo qui s'est investie sur ces plateformes. Et je pense que c'est en partie parce qu'ils ne s'y retrouvent plus tellement sur la télé traditionnelle. Donc, ce sont des gens, effectivement, tu as raison, Mike, plutôt jeunes, mais qui vont aller chercher... là où ils peuvent le trouver, le contenu qui les intéresse. C'est-à-dire que c'est des gens dont les hobbies, ça va pas forcément être la série Les Experts Miami en short et Les Experts de la Silicon Valley et Les Experts 42, tu vois, les 42 versions des experts. Non, eux, ça les intéresse pas trop. La télé-réalité, a priori, c'est pas leur truc. Les célébrités, ils s'en foutent un peu. Eux, les trucs qui les intéressent, c'est genre le net, la technologie et les jeux vidéo. Eh ben, ils retrouvent là un endroit facile de vivre, même pas de vivre leur passion, c'est même pas ça. C'est que ils ont un endroit où ils peuvent simplement trouver ce truc qui les intéresse, de la même manière que si tu veux regarder un match de foot ou du sport, tu vas mettre Bein Sport. Donc voilà, j'ai fait une réponse un peu longue, mais...
Est-ce qu'un jour, tu feras ton podcast sur Twitch ?
Twitch se limite exclusivement au contenu jeu vidéo. Si tu fais pas du jeu vidéo, tu peux être signalé et ton stream va être supprimé. Et en plus,
d'accord,
c'est vraiment uniquement jeu vidéo. Et en plus, il y a des interruptions. Si on n'est pas abonné, il y a des interruptions pub assez gênantes. Donc c'est peut-être, je sais pas, mais c'est enfin.
Déjà, ils viennent d'avoir un nouveau viewer. Je suis en train de regarder FIFA King Playing Viewer. des mecs qui jouent. Et puis, c'est vrai que c'est encore mieux qu'un un match de foot parce qu'au moins ça bouge et il y a des buts.
Ah, mais il y a plein de, tu disais que je travaille pour Blizzard il y a pas si longtemps. Il y a plusieurs des jeux de Blizzard qui sont hébergés chez, enfin, qui sont hébergés, pardon, qui sont parmi les jeux les plus. Voilà, là, on entend ce qui se passe sur Twitch, par exemple.
Ouais, ça veut dire qu'ils lancent directement la vidéo avec le son.
Voilà, c'est ça. mais il y a effectivement plusieurs jeux de Blizzard qui sont parmi les jeux les plus diffusés sur Twitch. Il y a plein de jeux, hein. C'est vraiment une plateforme qui est très active. Donc, moi, je regarde des jeux sur Twitch de temps en temps. Hein. Moi, vous le savez, je suis
Est-ce qu'il y a une chaîne, Not Patrick, quand tu joues, toi, est-ce que tu joues en direct des fois?
Allez, je joue pas en direct, non, parce que c'est un petit peu compliqué avec ma profession, justement. Encore que les choses sont en train de changer dans la société, mais c'est un petit peu compliqué parce que je suis une personne un petit peu publique par certains aspects. Et je suis également un employé de Blizzard, donc c'est un petit peu compliqué de faire des choses en public. En tant qu'employé de Blizzard, ça pourrait être considéré comme quelque chose fait par un employé de Blizzard officiellement. Bien sûr, ça serait pas le cas. Donc il y a différents facteurs à prendre en compte là-dedans.
Raison
mais non,
de plus
je n'ai pas
d'aller sur Patreon et de mettre votre argent afin que les chaînes de la liberté soient là pour notre très cher ami Patrick.
Alors écoute, moi je dis en plus de ça, si tu fais un Patreon juste pour ta chaîne où tu joues en gamer professionnel,
en jeu vidéo.
C'est beau.
Oh, je suis, tu sais, les gamers professionnels, c'est des vrais athlètes, hein. Moi, je suis pas du tout à ce niveau-là, hein. C'est vraiment des gens qui, enfin, des athlètes, pas forcément, enfin, c'est des gens qui sont très très doués et qui s'entraînent énormément pour ce genre de choses, hein. C'est pas si facile que ça, hein. Moi, je suis très bon pour jouer aux jeux vidéo en caleçon, devant mon ordi ou devant la télé. Je suis pas certain que les gens aient envie de voir ça spécifiquement.
Tu vas te faire avoir par Google, ouais.
Et une question de gamer encore, j'entends parler de Minecraft chez les enfants de moins de 10 ans. C'est quoi ce phénomène Minecraft? Alors, est-ce que c'est un jeu intelligent ou c'est un jeu bête ou c'est un jeu qui rend bête?
Ah non, c'est un jeu très très intelligent. J'ai une explication très simple. Minecraft, c'est l'équivalent virtuel des Lego. Et tu peux imaginer quand tu... Alors, ça fonctionne pas exactement comme des Lego, hein, c'est pas des blocs que tu mets ensemble, mais tu as un monde qui est en cube, et tu peux détruire des éléments du monde. Par exemple, une pierre, ça va te donner du... Je dis n'importe quoi, mais une pierre va te donner du sable. À partir du sable, tu peux faire du verre, etc., etc. Et tu peux construire énormément de choses. Les enfants adorent, et ils regardent ça, et ils jouent à ça. Et c'est... Tu imagines ce que peut donner les Lego sans les limites de financière, c'est-à-dire qu'il faut acheter plus de choses, d'espace, de poids, etc. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens qui construisent dans ces univers de Minecraft des choses absolument incroyables. Ils vont construire des vaisseaux spatiaux, des parcs à thème. Il y a des petits éléments de mécano même. Tu vois, tu peux construire virtuellement bien sûr, mais des petits circuits électriques. Donc tu vas pouvoir laisser libre cours à ta créativité, ton inventivité. Il y a des gens qui créent des sortes de machines virtuelles dans le truc. Bon, ça peut être très simple, hein, genre t'appuies sur un bouton et ça te fait avancer une voiture sur un circuit, genre un petit train électrique, tu vois, ce genre de choses. C'est une société qui s'appelle Mojang, une société suédoise qui fait ça. C'est un succès évidemment phénoménal et c'est un jeu vraiment intéressant qui a pris tout le monde par surprise. C'est un style graphique très simple.
Très simple.
Et bon, l'explication simple, encore une fois, c'est du Lego en version virtuelle. Mmh. Voilà. D'autres questions de gamers sur lesquelles je peux t'éclairer, Mike? Non, c'est bon?
C'est bon, là.
Ok. Bon, eh bien écoute, on va donc parler de ton autre sujet favori alors, Apple, dont on entendrait que l'event pour la présentation du prochain iPhone aurait lieu le 9 septembre et pour un lancement de l'appareil sans doute le 19 septembre. Entre parenthèses, je vous rappelle, chers amis, que mon anniversaire c'est le 21 septembre. Donc moi, il me semble que c'est assez bien timé tout ça.
Voilà, tu veux lequel?
Moi, je prendrais le petit iPhone 6, si c'est bien selon la vérité qu'on a entendue dans les rumeurs, c'est-à-dire un iPhone version 4 pouces 7, donc un petit peu plus grand que les iPhones actuels, mais plus petit que la phablette dont on entendait parler, un iPhone en version 6 pouces.
Est-ce que tu crois qu'il y aura deux versions de l'iPhone
Je crois rien du tout. Je ne crois que ce que je vois. Les rumeurs, effectivement, semblent suggérer qu'il est possible qu'il y ait deux tailles pour l'iPhone 6. On a entendu des rumeurs contradictoires selon lesquelles la version plus grande n'arriverait que plus tard, peut-être même l'année prochaine.
Ça, c'est typiquement. Ça, c'est plus Apple-like, moi, je trouve. Ça m'étonnerait qu'ils sortent comme ça deux produits avec des grosseurs différentes. Ça, c'est pas très Apple. Et en plus, en tant que consommateur, moi, j'hésiterais. Je ne saurais pas lequel prendre.
Je sais pas, peut-être. Mais moi, la seule chose que je sais, c'est que j'ai un iPhone 4S qui commence à vraiment dater. Il a 3 ans maintenant. Donc, je serais content d'en changer. Oui. Voilà. Et il semblerait que John Gruber, le fameux blogueur de Daring Fireball, ait des informations selon lesquelles, alors il a précisé son petit article, mais l'iWatch serait disponible soit en septembre, soit en octobre. Enfin, serait annoncé soit en septembre, soit en octobre.
Si John
Là encore,
Gruber
on n'en sait rien.
Attention, parce que John Gruber a toujours raison.
C'est vrai, mais il est un peu vague sur ce coup-ci. Hein. Ouais. Il n'est pas très 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 clair non plus.
Mais du coup, ça ferait du sens que ça vienne ensemble, non? Parce que les Watch toutes seules, elles n'ont aucun intérêt.
Ouais, c'est ce qu'il dit, justement. C'est exactement ce qu'il dit. Moi, je me disais, j'aurais pensé plutôt qu'il présenterait ça comme un produit, une nouvelle catégorie de produits, donc de manière indépendante. Mais plus j'y pense et plus je crois que ça serait effectivement logique qu'il l'annonce avec le téléphone lui-même parce que c'est tellement lié à ce téléphone. Exactement ce que tu dis, Ben. Donc, on verra.
Donc tu dis, donc Nat Patrick dit une seule taille de téléphone et l'annonce des iWatch, c'est ça qu'on a tweeté?
Ah non, c'est pas ce que j'ai dit, pas du tout.
C'est bon, on tweet tout le monde.
Bon, je vais plutôt vous parler de hyperlapse. Vous savez ce que sont les timelapses? C'est des vidéos qui sont accélérées pour montrer une vidéo très longue en très peu de temps. Bah, vous l'accélérez, c'est très simple. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui font ça avec les GoPro. Vous savez, quand ils vont faire du sport ou escalader une montagne ou se balader dans une ville, tu mets une GoPro sur ton front et ensuite tu accélères les 2 heures ou 3 heures de vidéo que t'as pris en 3 minutes. Le problème, c'est que ça bouge tout le temps, ça bouge partout, c'est assez désagréable à regarder. Eh bien, il y a un projet de Microsoft qui s'appelle le projet Hyperlapse, qui en fait prend ces vidéos. Enfin, il y a un processus de nettoyage de toute l'image qui prend certaines images, qui les stabilise, etc., et qui transforme ces timelapses en ce qu'ils appellent des hyperlapses, qui fluidifie tout ça d'une manière visuellement assez incroyable. Et j'aimerais vous inviter, chers auditeurs, à venir sur le blog de l'émission. On mettra le lien de cette vidéo spécifiquement dans les notes de l'émission. J'aimerais vous inviter à aller regarder ça parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique là-dedans. Je sais pas si vous avez eu le temps de le regarder tous les deux ou...
Oui, moi j'avais vu passer la nouvelle et effectivement... ça passe de quelque chose qui donne envie de vomir à quelque chose... Alors, c'est toujours rapide, hein, mais c'est fluide, c'est très beau. Vraiment, effectivement, c'est la pièce manquante quand on voit ça. Hein.
Et surtout, bon, ils font des trucs... Pardon, vas-y, Mike.
Je me demandais juste dans quoi Microsoft va intégrer cette technologie. Je me posais la question, est-ce que c'est dans son Xbox? Est-ce que c'est sur son operating system?
Bah, c'est une bonne question. On ne sait pas très bien ce que ça peut donner. C'est vraiment un projet presque de recherche fondamentale. Moi, je pense qu'ils sont arrivés à ce résultat en faisant de la recherche du traitement d'image, tu sais. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, mais bon, quand on voit les résultats que ça donne en ville, c'est sympa. Mm-hmm. Mais quand on voit quelqu'un qui escalade une montagne, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Mm-hmm. On a l'impression de, je sais pas, d'être une sorte de créature qui escalade la montagne rapidement. Enfin, c'est bon. Et effectivement, je sais pas du tout à quoi ça pourrait servir. Mais bon. C'est très beau et donc vous pourrez retrouver le lien vers cette vidéo dans les notes de l'émission sur frenchspin.com. Je vais terminer avec un sujet qui va faire peur à beaucoup de gens, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas suicidaire. Je voudrais parler d'Israël, de Gaza, de la guerre et des données. Et je ne vais pas parler en fait de tout ça, ne vous enfuyez pas, je pense qu'on en a suffisamment sur les réseaux sociaux déjà d'amis qui sont d'un camp ou de l'autre et qui nous harcèlent avec leurs idées. Ce dont je veux parler, c'est de l'aspect tech de tout ça. Parce qu'il y a une étude assez sérieuse qui a été publiée, selon laquelle, en regardant les différents... les différentes updates qui sont postées sur ces sujets, l'étude a montré que généralement, la plupart du temps, les gens sont un petit peu isolés dans une sorte de réseau de propagande finalement, parce que ils sont amis avec des gens généralement qui pensent comme eux, qui vont publier des liens qui renforcent les idées qui correspondent à ce qu'ils pensent, ce qui est normal, hein. Il n'y a rien de foncièrement surprenant là-dedans. C'est la manière dont ça fonctionne socialement. Mais dans donc cet environnement qui a une sorte de volume exponentiel avec le net, on se retrouve finalement à n'avoir que des informations et des liens et des conversations qui vont renforcer nos croyances à l'origine, nos croyances ou nos convictions. Et c'est une sorte de cercle de propagande qui est créé. C'était une étude très intéressante et ils parlaient vraiment, ils ont étudié la chose d'un côté comme de l'autre et ils ont montré que sur les différents avis sur ce conflit très précisément, hein, de conflit au Moyen-Orient avec les problèmes qu'il y a depuis quelques semaines, quelques mois, ils ont montré que les gens étaient complètement isolés dans leurs opinions. Et la raison pour laquelle je tenais vraiment à en parler, c'est d'une part parce que je trouve ça très intéressant de se rendre compte de ça, et d'autre part parce qu'il y a quelques semaines, j'avais parlé, comme je le fais de temps en temps, un petit peu de politique, et d'une réflexion que j'avais sur la législation et le fait de vouloir régler différents problèmes par l'arsenal législatif. J'avais fait une réflexion sur le sujet, et comme je le fais souvent, j'avais dit que je suis un petit à tendance de droite. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis un petit peu socialement, j'ai le cœur à gauche et j'ai le portefeuille à droite, quoi. C'est un petit
comme
peu comme
tous.
Voilà, comme tout le monde. Mais il y a une ou deux personnes très très rares. La plupart des gens comprennent bien la démarche, etc. Mais il y a une ou deux personnes qui m'ont reproché de parler de politique ou de donner mon avis comme ça en public. Et c'est marrant que cette histoire soit ressortie sur cette sorte de cercle de propagande, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais consciemment pour essayer, à mon tout petit niveau, hein, mais pour essayer de combattre un petit peu ce type de problème. C'est-à-dire que j'essaye de montrer qu'on peut avoir des avis différents. Alors moi, j'ai certains avis. J'invitais régulièrement, quand ils étaient présents sur la scène podcastique, les gens de Polygeek, qui eux sont très à gauche, hein, par exemple. Ils sont même militants, hein, c'est vraiment des gars convaincus. Et on avait des conversations tout à fait parfois animées, mais ça restait pas bon enfant, mais enfin ça restait cordial, et puis on restait potes à la fin. Alors évidemment, les problèmes au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus grave, mais c'est juste pour le principe d'essayer de marquer un petit peu ce fait de dire je parle parfois un petit peu de mes opinions, de mes tendances, qu'elles soient politiques ou autres, mais sans animosité, pour essayer de montrer justement qu'il est possible de se parler, de s'entendre et de rester amis, même quand on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est quelque chose de très très important, et je sens, enfin évidemment c'est important, c'est une évidence, mais je sens que ça se perd parfois un petit peu partout, mais peut-être un petit peu plus sur le net, et c'est pour ça que je sais que c'est quelque chose d'un petit peu, je vais pas dire dangereux, mais d'un petit peu délicat, mais c'est une chose à laquelle je tiens. Et c'est pour ça que je le fais. Voilà, je voulais juste donner une petite explication. J'avais pas eu l'occasion de le faire la fois d'avant, mais ce sujet me donne l'occasion de le faire. Donc voilà, je vous voulais simplement le dire et l'expliquer, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu étonnant pour certains parfois. Bon, je vois que vous êtes quoi ?
Oui.
Vous êtes muet.
Non, mais sur ces bonnes paroles, moi je trouve très intéressant, la news elle-même m'étonne un peu, parce que dans un monde de social media, de médias sociaux, d'ouverture, on croirait justement que le monde est beaucoup plus ouvert et que les deux parties sont beaucoup plus visibles, alors qu'on le voit que, ben voilà, on se limite à ce qu'on connaît. Donc moi je dis, ben vas-y, donne tes opinions, car c'est pour ça qu'on t'écoute aussi. On veut savoir qui est derrière le podcast.
C'est gentil, mais c'est vrai, hein. Et puis c'est surtout la manière, il y a manière et manière de le faire. Et ce que je veux montrer, c'est qu'il y a, enfin j'espère, hein, en tout cas c'est le but, il y a un moyen de parler de ces sujets, entre guillemets, qui fâchent, ou de ces sujets graves, sans que ça fâche justement, et sans, en restant cordial et sympa et marrant. Enfin, je pense qu'on s'aime bien tous dans
après,
le public.
Après, je pense
que
c'est comme dans tout, c'est comme à la télé, on essaie toujours de cataloguer une personne. Donc, Patrick, il fait de la tech, et on veut l'entendre parler de tech. Et dès que voilà, tu parlerais cinéma ou tu parlerais ça, on dirait, mais c'est pas le Patrick que je connais. Il parle tech, il parle cinéma, il parle politique. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi ce genre de choses-là.
C'est vrai, il y a peut-être un peu de ça. Bon, eh ben écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais remercier CyberKick sur Twitter, qui m'a envoyé un lien vers le Club des Artisans, et d'autres personnes ont fait ça aussi. Enfin, pas forcément le Club des Artisans spécifiquement, mais des endroits où on pouvait trouver des artisans qui sont fiables suite à mes mésaventures de plomberie qui vont bien maintenant, tout est réglé, hein, entre parenthèses. Homejoy, le site dont parlait Jeff la dernière fois, qui est un site qui fait principalement du ménage à domicile, une sorte d'ubérisation du ménage, s'est lancé en France. C'est marrant parce qu'on en parlait à ce moment-là, et j'ai tweeté à Homejoy en disant « Hey, quand est-ce que vous lancez en France ?» Ils m'ont répondu genre 4 jours plus tard en me disant « Ça y est, on est lancé. » Je me suis dit « Ah !»
Quel
pas mal, hein. Mais bon, ils font pas encore de plomberie, ils font que le ménage en France, mais c'est un service intéressant. Il y a aussi Moofies, je crois, qui m'avait répondu, qui fait un petit peu le même genre de choses. C'est ça, M-O-O-F-Z, c'est pas ça ? Non, je sais plus. Ah là là, je vais plus me souvenir de leur nom. Ils m'avaient tweeté très gentiment et ah si, c'est ça, Moofiz.fr. Alors je vais vous dire le site parce que c'est moofiz.com, M-O-O-F-Z.com. Voilà, j'aurais dit les noms des deux qui proposent aussi de mettre en relation avec des gens qui peuvent faire des petits travaux à proximité. Quoi d'autre enfin, je crois qu'on arrive au bout. Windows 9 sera peut-être gratuit pour tous les utilisateurs de Windows XP, Vista et Windows 7. Et moi qui aime Windows 8, j'aurai pas Windows 9 gratuit. Windows 9 avec des virtual desktop, avec l'abandon des charmes, un assistant virtuel Cortana. Et ben non, il faudra que je le paye. Super, merci les gars. Bon, c'est encore des rumeurs, hein, on n'en sait rien. Allez, je pense qu'on va pouvoir conclure l'épisode sur ces considérations. Je vais évidemment vous donner à tous les deux l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Et dites-nous ce qui se passe avec Niptech, là. Mais chaque mois, il y a des choses différentes. Vous allez vraiment lancer votre Patreon, alors ?
Écoute, là, je sais pas, on l'a pas encore dit, mais on va faire presque mieux. Mais on a la NipConf qui arrive le 24 octobre à Lausanne.
Non, mais tu déconnais pour le Patreon ou pas ? Moi, je croyais que tu étais sérieux.
Ah, non, mais on va le faire.
On va le faire.
On va le
D'accord,
faire
ça arrive.
Parce que ce qu'on voulait le faire, mais on n'a pas encore pris le temps de bien le faire. Donc, mais c'est clair qu'on va le faire.
Mais
d'accord,
puis mieux,
très bien.
Mieux vaut aussi le. À un moment, faut se lancer. Ouais. Faut se lancer.
Ouais, c'est vrai. Et donc la NipConf, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Ouais, alors la NipConf le 24 octobre, donc où il y aura plein de gens qui vont venir nous parler de tout ce qu'on aime et de tout ce dont tu parles aussi. Tech, on va parler de crypto-monnaie, de vêtements connectés, d'impression 3D, de drones, de beacons, de voyages sur Mars. Enfin, ça va être vraiment hyper chaud comme ça. Et plein de gens très, très intéressants aussi. Vous pouvez aller sur nipconf.com, jeter un coup d'œil. On n'a pas encore annoncé tous les intervenants. Donc, il y a encore des bonnes surprises à venir. Et c'est un petit peu tous nos coups de cœur qu'on a eu depuis qu'on a commencé Niptech il y a 5 ans maintenant. Plein d'invités qu'on a eu, enfin, c'est un grand bonheur de penser qu'il y aura tout ce monde-là, un grand bonheur. Donc, Patrick, tu sais ce que tu fais le 24 octobre.
Pas de souci. Bah, écoute, on en discutera après l'émission.
D'accord.
Eh bien, donc, c'est juste niptech.com alors pour tout ça ?
Nipconf.com, N-I-P-C-O-N-F.com.
D'accord, parce que moi, je parlais. Oula, attends, il y a un moustique. Attends, je vais le choper.
Vas-y.
Hop, je l'ai eu.
Et normalement, il fait trop froid pour avoir des moustiques. Je pensais qu'il fait trop chaud.
C'est tropical.
Ah, c'est pour ça. Non, et une autre.
Il m'attaque. Il est pas mort. Ah si, c'est bon. Pardon. Excusez-moi. Je suis attaqué par un moustique zombie.
un autre site web où on peut avoir vraiment toutes les podcasts qui sont dans l'environnement Nipcast. C'est NIPCAST, nipcast.com, où là, ben voilà, il n'y a pas seulement Niptech, il y a Nipdev, Nipedu, Nipsport, enfin plein d'autres. Et puis, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, ben nipcast.com.
Oui. Super. Magnifique à tous les deux. Merci à tous les deux. Pour vous retrouver, bon, je dis toujours Twitter, hein. Toi, c'est @bcurdy, Benoît. Et
oui.
Toi, Mike, c'est @side, S-Y-D-E, c'est bien ça.
Parfait.
Et pour ma part, c'est NotPatrick, vous le savez, vous le connaissez déjà, NotPatrick sur Twitter. Vous pouvez venir sur frenchspin.com pour les notes de l'émission et cette vidéo sur les Hyperlapse de Microsoft. Et vous pouvez aussi évidemment aller sur patreon.com/rdvtech ou plus simplement lrdv.fr pour soutenir l'émission financièrement. Et je vous en remercie encore une fois chaleureusement. On vous donne donc rendez-vous pour un autre épisode dans 2 semaines à peine. Grosse bise, ciao ciao.
Salut.
Ciao ciao.
Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Eh bien, elle fait partie des mille et une choses que l'équipe de Papa à quoi tu joues a ramené de Japan Expo et vous propose de découvrir à travers son podcast sur le site www.papaacquoitujoues.fr. Je vous rappelle que Papa à quoi tu joues, c'est le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture ludique et vidéoludique. Vous retrouverez ainsi chaque mois des conseils de jeux vidéo et aussi de jeux de plateau à tester avec ou sans vos enfants pour passer de manière agréable le peu de temps libre qu'il vous reste. À bientôt sur papaquoitujoues.fr. Et attention, information importante, dans le numéro du mois d'août, il y a un concours pour remporter une copie Steam du jeu Dishonored. Bonne chance à tous!